France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag des informés, également le canal 27 de la TNT. Alors eux, ils sont venus se réchauffer à la cheminée de l'actualité, voir les flammes de l'info rougir leurs réflexions, et l'un d'entre eux d'ailleurs essayant souvent même de griller un chamallow en loose day. Bon, je le vois, hein, mais je dis rien. Mais c'est pas grave, autant prendre des forces avant le débat. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Hamdam Mostafavi de Courrier International. Bonsoir.
Bonsoir.
Le communicant Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir.
Bonsoir.
Et également Perico Légas de Marianne, bonsoir.
Bonsoir.
Et Philippine Lagnès, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France, vous, du MoDem. Et ce soir, quatre débats jouant à la marelle sur le trottoir de l'actualité. Le pessimisme, notre plus grande fierté en France. Marine Le Pen ou la pop d'extrême droite. Pourquoi parler d'écologie et d'affaires étrangères dans le débat de la droite? Ça tombe bien, on va en parler. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Bon, ben voilà, hein, le dernier débat de la primaire de droite est passé. Depuis ce matin, le sentiment après la prestation de François Fillon et d'Alain Juppé, c'est « Mouais, bof, voilà, à croire hein, qu'on attendait de la rixe violente. Hein. » Alors parfois, on y a cru, hein, faut bien le dire. Sur les fonctionnaires, alors là, ça va y aller. Ben non. Et sur l'IVG, ben non plus. À Poutine, non, pas trop. Et ben en fait, voilà, c'était un débat qualifié par David Pujadas de « très sympa ». Très sympa. Alors, je ne sais pas si ces mots nous sont venus en tête quand on l'a regardé, ce débat, mais c'est quand même un débat technique qui nous a permis de voir quelques différences entre les deux hommes, et notamment sur les regrets à la fin. Peut-être l'avez-vous vu, François Fillon a regretté qu'on découvre seulement maintenant sa candidature, et Alain Juppé ne savait pas quoi dire sur cette question. Il y est d'ailleurs revenu ce matin, Alain Juppé.
C'est avant le premier tour de ne pas avoir suffisamment décortiqué le programme de certains de mes concurrents.
De François Fillon.
Tout s'est focalisé avant le premier tour entre Sarkozy et moi. Et maintenant, on découvre le programme de François Fillon avec des convergences, mais aussi de profondes différences vis-à-vis de moi. Je dirais, pour simplifier, que c'est un commentaire que j'ai entendu ce matin, hyper libéral d'un côté et libéral social de l'autre.
Voilà, Alain Juppé ce matin sur BFM TV. Philippe Moreau-Chevrolet, pour vous, il y a un gagnant.
Oui, quand même. De plus, on a des sondages qui sont des sondages après l'émission qui ont été faits notamment par Harris Interactive. François Fillon, dans les deux tiers des électeurs de droite, convainc plus qu'Alain Juppé. Par contre, auprès de l'ensemble des téléspectateurs, c'est moins net. On a du 30-20 et en gros, il y a près de 50% des gens qui ne se prononcent pas parce que juste, ils n'ont pas d'idée de qui a pu gagner ce débat. Et c'est un petit peu l'idée générale, c'est-à-dire qu'on s'est profondément ennuyé, qu'il n'y a pas eu vraiment de domination, sinon une domination tranquille de François Fillon.
Mais alors, ennuyé justement Mme Mostafavi ou pas? Parce qu'on s'est dit pendant toute la semaine, oh là là, ça devient violent, et puis alors là, finalement, ils vont programme contre programme, on trouve ça ennuyeux, donc on ne sait pas trop.
Oui, on veut toujours un peu de la baston quand même dans ce genre de débat, faut quand même avouer. Après, le côté presse étrangère, en tout cas, c'est clairement Fillon qui a gagné. Alors, après, c'était difficile à justifier, mais je crois aussi que c'est parce que la presse étrangère a découvert Fillon cette semaine, du coup, ils ont eu envie de le donner un petit peu gagnant.
Ouais.
C'était la première. Soudain, ils ont fait, ah tiens, il y a un autre ultra-conservateur en France qui est.
Ça existe. Perico Légas, finalement, hier, c'est vrai que toute la semaine a été marquée de polémiques, notamment venues de la part aussi d'Alain Juppé, qui a essayé de chercher son adversaire. Chacun, d'ailleurs, hier, a parlé d'attaque. On peut dire que c'est vrai que ces deux hommes ont été attaqués, finalement, pendant la campagne, vous trouvez?
Oui, donc finalement, ils sont apparus assez gentils, puisque Juppé était un petit peu agressif à la fin de la semaine, et puis finalement gentil. Et puis alors, le Droupi, qui était devenu grand Satan, était aussi très gentil. Moi, j'ai un problème beaucoup plus grave. J'ai l'impression que s'il avait fallu dicter les questions aux trois intervieweurs, on ne serait pas vu autrement. Ce sont les questions qui convenaient aux deux candidats pour répondre ce qu'ils avaient envie de répondre. J'aurais voulu que les trois intervieweurs, qui sont des gens de qualité, leur posent des questions sur ce qui est clivant, leur position par rapport à l'Europe et la Commission qui pose un problème, par rapport au terrorisme islamique et à la gestion du terrorisme islamique, et surtout avec le CETA et le TAFTA, les mesures juridiques américaines qui réduisent notre indépendance. Et là, j'aurais voulu avoir le fin mot de leur... Eh ben, on ne le saura pas.
Oui.
Donc la droite va aller voter demain, enfin dimanche, sans savoir quelle est la position sur ces trois enjeux fondamentaux. Là, je trouve que ce sont les médias qui ont fait un acte de complicité. Eux, ils n'ont rien demandé.
Ouais.
Hein, mais par contre, qu'on n'ait pas posé des questions. Si c'est un hasard, c'est très grave. Si c'est pas un hasard, c'est encore pire.
Justement, Perico Légas, une chose, François Fillon, hier, n'a pas arrêté de dire, mais arrêtez de caricaturer. Oh, bah ça, c'est de la caricature. C'est un spécialiste un peu de ça. Maintenant, François Fillon, depuis longtemps, il le fait, non?
Oui, sauf que pour le coup, c'est vrai que cette semaine, il a été souvent caricaturé.
Non, mais à propos des questions, justement, des journalistes, à chaque fois qu'un journaliste lui posait une question, c'était une caricature.
Je regrette, il y a beaucoup de caricatures dans les journaux, chez les journalistes qui veulent des questions people ou un petit peu ragot, voilà, qui n'intéressent pas les Français, les questions qui intéressent vraiment les enjeux électoraux et politiques n'ont pas été posées. Donc il y avait de la caricature aussi dans les questions.
Philippine Lagnès, alors vous-même, étant du Modem, vous êtes plutôt du côté d'Alain Juppé. Ça a été très reproché par Nicolas Sarkozy, hein, d'ailleurs, ce soutien du Modem à Alain Juppé. On n'en a pas parlé, d'ailleurs, du tout hier, hein, des centristes. Comment vous l'avez trouvé, vous, Alain Juppé, hier?
Moi, je l'ai trouvé courageux. J'ai trouvé qu'il avait défendu ses positions jusqu'au bout, qu'il avait assumé ce qu'étaient ses différences avec François Fillon, qu'il n'avait pas été tenté d'aller chercher un électorat de droite dur qui lui est pas forcément acquis et qui a fait la majorité du corps électoral au premier tour. Donc, c'est un risque aussi de son côté. Il va falloir qu'il attire du coup un nouvel électorat au second tour pour espérer gagner cette élection qui est vraiment pas acquise pour lui. Donc je trouvais
donc
assez
plus à gauche,
courageux, moins à droite, plutôt plus à gauche, parce que c'est pas un candidat de gauche, faut arrêter là. Pour le coup, ce serait une caricature. Aller de nouveau chercher des voix de gauche, des voix centristes, des voix de droite modérées. C'est pour ça que la question des droits des homosexuels a été assez importante cette semaine. C'est pour ça que la question de l'assurance maladie a été importante cette semaine. La question des fonctionnaires, la question de l'Europe, pour le coup, elle aurait dû être importante pour attirer un électorat centriste. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, c'est sur ces questions-là qu'il va réussir à amener un nouvel électorat vers lui.
Pierre Grégas, vous vouliez réagir, non? Je voyais sourire ce que disait.
Oui, le débat, ce qui est clair, c'est que moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Pourquoi est-ce que cette droite-là, avec ses deux finalistes, apparaît quand même comme un peu plus libérale? Alors, la notion de libéralisme de Juppé et de Fillon, bien malin, un peu de droite dure, mais parce que la droite molle, la droite douce, la droite bien pensante, elle est au pouvoir. À travers la social-démocratie, le Parti libéral-socialiste, M. Hollande, M. Valls et M. Macron qui appartiennent, eux, ils ont fait une politique qu'aurait fait tout à fait M. Juppé ou M. Donc, comme on a vu que ça marche pas, qu'on est quand même à 600 000 chômeurs de plus depuis 5 ans, eh bien, la droite sait qu'aujourd'hui qu'elle est obligée, pour se sortir de là, de passer à une mesure un peu plus radicale. Faut être sincère, faut être clairvoyant, mais ce qu'il en est, c'est que la droite douce du socialisme ne marche plus, faut une droite libérale.
On continue en parler dans un instant, l'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
Fin de la chasse à l'homme dans l'Hérault. L'homme soupçonné d'avoir tué une aide-soignante dans une maison de retraite hier soir à Montferrier, près de Montpellier, a été arrêté. Information de France Bleu Hérault. Peu avant 22h hier soir, un suspect encagoulé et armé d'un couteau a fait irruption dans l'établissement et tué l'employé. Il s'agit d'un ancien militaire de 47 ans qui avait travaillé dans la maison de retraite, selon nos confrères. Une centaine de gendarmes étaient mobilisés depuis ce matin pour le retrouver. Jacqueline Sauvage renonce, condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari violent. Elle ne se pourvoira pas en cassation. Sa demande de libération conditionnelle a été rejetée pour la deuxième fois hier. Des centaines de manifestants cet après-midi à Paris et à Nantes pour demander sa libération. Les tarifs des péages autoroutiers vont augmenter à partir du 1er février 2017, plus 0,76%. Ce n'est pas grand-chose si vous prenez l'autoroute deux fois par an, mais ça va peser sérieusement sur la facture si vous l'empruntez tous les jours. Au 1er février 2016, les péages avaient déjà augmenté d'1,12%. 44 morts même, et des centaines de blessés dans une collision entre deux trains de voyageurs en Iran, dans le nord-est du pays. C'est la presse locale qui donne ce tout dernier bilan. Pas encore de pistes sur les causes de l'accident. Et puis après la tempête vient le beau temps en Haute-Corse. Le soleil est revenu sur l'île de Beauté, mais les dégâts des intempéries d'hier sont considérables. Réseau ferroviaire coupé, centre commercial submergé, routes inondées. La région de Bastia est particulièrement touchée. Pas de victimes fort heureusement, des dégâts également dans les Alpes-Maritimes où des voitures ont été emportées par les eaux.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on parle du débat hier, hein, le dernier débat entre Alain Juppé et François Fillon. Est-ce que ça va nous manquer? Pas vraiment, hein, mais un petit peu quand même, on peut le dire, parce que ça nous a beaucoup occupé ici aux informés de France Info. Philippe Chevrolet, une fois les tensions évacuées, est-ce que vous avez vu des vraies différences sur le fond, en dehors de la méthode finalement? En dehors de la méthode, on voit qu'il y a une différence de méthode entre Fillon et Juppé, mais sur le fond.
Oui, il y a quand même une approche qui se revendique davantage centriste de la part de Juppé. On sent qu'il a un peu insisté là-dessus pour marquer justement une différence. Non, il y a deux droites qui s'affrontent quand même. Il y a une droite qui est celle de Fillon, qui est une droite qui est celle qui est allée voter. On s'attendait à ce que cette droite aille voter. Les électeurs sont plutôt plus de 50 ans, CSP+, donc riches en clair, plus riches que la moyenne en tout cas. Chrétiens, pro-européens, ces gens-là qui est un peu la droite l'Oden de la manif pour tous, ce sont eux qui ont voté. Et c'est vrai que Juppé ne correspond pas à cette droite-là. C'est une droite plus centriste. centriste, plus traditionnel si on veut, dans le sens démocrate chrétien du terme. Ouais. C'est pas vraiment choquant comme différence, mais ça existe.
Alors, finalement, il n'y a pas trop de sujets qui ont fait polémique en sortant de ce débat. Alors, il y en a un, quand même, qui fait parler ce soir, et c'est suite à des propos de François Fillon. On va l'écouter.
Avez-vous déjà manifesté dans votre jeunesse, Monsieur Fillon ?
J'ai manifesté, oui. J'ai d'abord manifesté une première fois contre un professeur d'anglais que je jugeais incompétent dans mon lycée. J'ai dû manifester une deuxième fois au moment de mai 68 de manière assez folklorique, plutôt du côté de ceux qui ne voulaient pas travailler.
Alors, non, en fait, on va revenir parce que c'était pas ce son-là exactement. Voilà, on l'a interrompu. En fait, c'était un autre. Je sais pas si on peut l'écouter d'ailleurs, ce son. On va voir, on verra tout à l'heure. On peut l'écouter? Oui, on va l'écouter. Eh ben, on va l'écouter. Voilà le son, donc, qui fait polémique ce soir.
Les programmes d'histoire aujourd'hui, pour une grande partie d'entre eux, sont rédigés par des idéologues qui veulent justement imposer leur vision de la société. Dans la dernière instruction qui a été donnée par l'inspection générale, on enlève Clovis, Jeanne d'Arc, même Voltaire et Rousseau.
Voilà, alors ça c'est le propos qui a fait bondir l'association des professeurs d'histoire-géographie qui dénonce l'instrumentalisation de l'histoire par la politique, et donc notamment François Fillon qui parle de réécrire l'histoire comme un récit national. Philippine Lagnès, pour vous aujourd'hui, est-ce que François Fillon va dans le bon sens quand il dit il faut réécrire les manuels d'histoire ?
Là pour le coup, c'est lui qui était dans la caricature, parce que effectivement on a pu le vérifier très rapidement, et d'ailleurs ça a afflué sur les réseaux sociaux toutes les photos des manuels d'histoire, que ce soit Clovis, que ce soit Jeanne d'Arc, que ce soit Voltaire ou je ne sais plus qui d'autre, Rousseau, ils sont tous étudiés dans les manuels d'histoire. Donc je ne trouve pas que ce soit à la hauteur, pour le coup, d'un débat présidentiel, enfin quasi-présidentiel.
Ça fait longtemps qu'il en parle, François Fillon, c'est vraiment les programmes d'histoire.
Oui, parce qu'il va chercher un électorat avec son histoire de récit national. Et puis, en éducation, on essaye toujours de trouver un bouc émissaire. Alors parfois, c'est les profs, parfois, c'est les parents d'élèves. Voilà, là, c'est les pédagogues qui rédigent les programmes. Bon, c'est un petit peu facile.
Ouais, Perico Legas.
Il s'est planté parce qu'effectivement, il y a eu un moment donné tendance à réécrire l'histoire, non pas par rapport au récit national, comme il le dit, mais à des faits qui sont toujours choisis pour aller dans le sens d'une analyse de l'histoire. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les élèves qui sortent de primaire et de secondaire sont dans un état de connaissance absolument effroyable, non seulement sur le plan de la lecture du français,
fondamentaux, oui,
mais sur le plan d'histoire, c'est une catastrophe. Je le sais bien. Bon, j'ai autour de moi des gens qui ont des enfants qui sont dans différents types d'établissements. L'enseignement de l'histoire en France est une calamité, et Madame Belkacem a beaucoup aggravé. Alors concrètement, c'était peut-être pas ces cas-là qu'il faut choisir, mais là où il a raison, c'est de dire que l'enseignement, j'allais dire, du sentiment national, de l'appartenance à cette, justement, et c'est la polémique avec nos ancêtres les Gaulois. Bien sûr que c'est pas nos ancêtres les Gaulois, ça veut dire qu'on intègre une identité nationale, qu'on intègre un passé national, qu'on intègre une communauté nationale. Mmh. Et ça, effectivement, aujourd'hui, l'éducation nationale, il y a des gens au programme qui essaient de le détruire pour idéologiser les nationalistes dans un sens. Là, il a raison.
Alors oui, mais alors le problème, c'est qu'on va vous dire aussi, Perico Legas, c'est l'histoire n'est pas une science figée, justement, ça évolue, on fait des nouvelles découvertes dessus, ce n'est pas forcément la même histoire qu'on apprenait en 1810 et maintenant.
L'enseignement ancien de l'histoire a fait la Grande République, a fait des hommes qui sortaient souvent de milieux sociaux défavorisés qui avaient des carrières et qui a fait une France qui gagnait et qui avait de bel emploi. Je constate que la réécriture de ces programmes et que la réinterprétation des programmes scolaires coïncide avec un analphabétisme crasse et comme dit Jean-Paul Brigelli, c'est une fabrique de crétins. Mm. Donc il faut arrêter la fabrique de crétins. En ce sens, Fillon avait raison de taper sur la table.
Oui, Mme Mostafavi.
Oui, mais, enfin, il y a aussi quand même sur la réécriture des programmes d'histoire. Aujourd'hui, on n'est pas du tout la même France qu'on avait en effet avant dans ces années-là. Oui. Et tous les candidats, notamment à droite, ont axé sur le récit national, sur l'identité française et tout. Alors qu'on voit quand même qu'il y a eu une partie d'échec dans l'école, dans le fait d'intégrer les enfants issus de l'immigration, les enfants de ma génération et plus jeunes même. Voilà. Et parce que aussi, en niant qu'il y avait une sorte de diversité, donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut raconter toute l'histoire du monde, mais peut-être que parler d'intégrer cette dimension à l'heure où on essaye de parler, Juppé qui parle de société multiculturelle, on n'aborde pas ces questions. Fillon renonce totalement au multiculturalisme en disant nous sommes juste une seule identité.
Voilà, il dit nous ne sommes pas les États-Unis. Voilà, c'est ce qu'il a dit hier.
Ouais.
Il a cité le modèle américain. Philippe Moreau-Chevrolet, sur cette question justement de l'histoire, récit national, alors ces professeurs d'histoire-géographie disent on en a assez que les politiques se mêlent finalement des programmes d'histoire. C'est pas à eux de le faire. Il y a des gens qui travaillent toute la journée pour ça. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que finalement les politiques... On sait que c'est idéologique aussi derrière.
Ah, c'est purement idéologique. François Fillon, il s'adresse à une grosse partie de l'électorat de droite qui considère, un, que l'école doit être libre, c'est-à-dire pas forcément une école de la République, mais une école privée, et qu'ensuite, il y a un dévoiement par Najat Vallaud-Belkacem, par la gauche qui est idéologisée, de l'éducation, où on veut fabriquer des jeunes gauchistes. En gros, c'est ça le discours de la droite. Il va dans ce sens-là. Il dit, on perd les valeurs, et il flatte cet électorat-là. Bien sûr que ça n'a pas de réalité, parce que dans la réalité, les profs se débrouillent comme ils peuvent avec des programmes qui sont souvent de briques et de brocs, et la réalité du terrain est complètement différente de cette vision-là. Mais il sait qu'il flatte un certain électorat de droite. Et par ailleurs, c'est vrai qu'on parle de l'éducation nationale à chaque élection, parce que c'est la filiation, c'est les enfants, et ça devient de jour en jour plus important en France, où on a l'impression que nos enfants vont moins bien vivre que nous, dans des conditions complètement différentes et inquiétantes.
Ouais. Alors, Philippine Lagnès, au niveau d'un vote, on l'a beaucoup parlé, je vous disais tout à l'heure, le vote centriste, est-ce que là, quand on voit finalement Alain Juppé qui a fait 24% au premier tour, 28% pardon, au premier tour, est-ce que finalement, il n'y a pas un petit problème justement avec les centristes en disant que ça ne représente plus grand chose aujourd'hui dans l'électorat français?
Je pense que si les centristes représentaient pas grand-chose dans l'électorat français, ils seraient encore beaucoup plus bas.
Ouais.
Parce que c'est une grosse part de son électorat. On voit que c'est un électorat centriste, de gauche et de droite modérée, et que finalement, on se doutait peut-être pas, mais que l'électorat de droite traditionnelle est en fait un électorat de droite dure, ce qu'on avait un petit peu oublié. Après, les centristes, dans les sondages d'opinion, ils sont sur un socle. Enfin, François Bayrou, quand il est testé sur la présidentielle, selon les candidatures autour, mais... Quand il perd, c'est parce qu'il y a d'autres candidatures centristes. En gros, on est sur un socle quand même qui peut atteindre 15%, donc c'est pas tout à fait anodin.
Et quand vous voyez d'autres gens, alors de l'UDI, par exemple Hervé Morin, président de la région Normandie, qui rallie François Fillon?
Ouais, enfin tout ça, c'est des histoires politiques aussi. C'est la guéguerre entre Jean-Christophe Lagarde et Hervé Morin, qui de toute façon conduit à ce que
très quand précis. Il faut le dire, il y a une guéguerre entre les deux.
C'est ça, quand l'un dit blanc, l'autre dit noir. Donc ça aurait pu être l'inverse aussi.
Oui, Perico Legate.
On n'a jamais vu une telle explosion des centres. À un moment donné, ils ont pu être rassemblés. Alors il y avait le centre gauche et le centre droit. On avait deux tendances. Bon, là, on a quand même déjà. Est-ce que chez Macron, il n'y a pas du centre? Bien sûr qu'il y en a. Il y a François Bayrou, il y a l'UDI, bien entendu. Maintenant, Juppé incarne aussi un petit peu une forme de centrisme. Il y en a un petit peu chez Fillon aussi, pas du tout. Et puis il y en a quelque part chez Manuel Valls également.
Ah oui,
donc les centristes, ils sont contents, ils sont partout maintenant, vous voyez.
Il n'y a jamais eu autant de centristes.
Il n'y a jamais eu autant de centristes.
C'est la boîte de grenouilles.
C'est le drame de François Bayrou. C'est que en 2007, il était seul et aujourd'hui, ils sont 15.
On lui a volé son pactole.
C'est un succès aussi.
L'info à 20h20, Pierre-Yves Bonneau.
Il promettait de faire sauter les PV en échange de faveurs sexuelles. Un CRS vient d'être condamné à l'instant par la cour d'assises des Yvelines à Versailles à 11 ans de prison. Condamné pour viol et agression sexuelle sur plusieurs femmes. À 37 ans, ce policier aujourd'hui révoqué aurait demandé des faveurs sexuelles à une dizaine de femmes et violé ou agressé sexuellement certaines d'entre elles. Ils étaient téléguidés par Daesh depuis la Syrie ou l'Irak. 5 hommes arrêtés le week-end dernier ont été présentés à un juge cet après-midi en vue de leur mise en examen. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu commettre un attentat le 1er décembre en région parisienne. 4 Français de 35 à 37 ans, amis de longue date, et un Marocain de 46 ans. La métropole européenne de Lille, mise en examen en tant que personne morale. La procédure date du 15 novembre, mais on ne l'apprend que ce soir. La métropole est soupçonnée de favoritisme dans le dossier d'attribution du grand stade de Lille, le stade Pierre Mauroy, situé à Villeneuve-d'Ascq. Inauguré à l'été 2012, le projet avait été impulsé par Pierre Mauroy et Martine Aubry, présidents successifs de la communauté urbaine de Lille. Après sa menace de laisser passer les migrants vers l'Europe, si Bruxelles suspend ses négociations avec la Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan agite de nouveau un chiffon rouge, le chiffon rouge au sujet de la peine de mort. Le président turc affirme ce soir qu'il promulguera la peine capitale si le Parlement turc la vote, et qu'importe les avertissements de l'Union européenne.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Hamda Mostafavi de Courrier International, également le communicant Philippe Moreau Chevrolet, Perico Legas de Marianne et Philippine Lagnès, conseillère régionale d'Île-de-France Modem. Pim pam poum, ce sera toi dont on discutera. Allez, va pour les 35 heures. Pim pam poum, ce sera toi dont on ne discutera pas. Allez, va pour l'environnement. Pim pam poum, ce sera toi dont on parlera mais 5 minutes parce que ça n'intéresse pas les gens. Allez, va pour la politique étrangère. Voilà comment les rédactions de France Télévisions, France Inter et TF1 ont peut-être préparé le débat d'hier soir. Tout économie et peu pour le reste, des pans entiers de discussion semblent avoir été oubliés. Alors certes, en 2 heures. Hein. On n'a pas le temps de tout dire. Il faut dire que les grands sujets ont été abordés dès le début, avec notamment cette question posée par Gilles Boulot de TF1. On a déjà eu un petit aperçu tout à l'heure, on va la réentendre tout de même maintenant.
Avez-vous déjà manifesté dans votre jeunesse, Monsieur Fillon ?
J'ai manifesté, oui. J'ai d'abord manifesté une première fois contre un professeur d'anglais que je jugeais incompétent dans mon lycée. J'ai dû manifester une deuxième fois au moment de mai 68 de manière assez folklorique, plutôt du côté de ceux qui voulaient pas travailler.
Voilà, donc François Fillon, voilà, toujours très dans les questions les plus importantes, hein, Madame Mostafa Vili, parce que c'est vrai qu'on a vu que l'international, vous, c'est votre domaine, puisque vous êtes de cours international, a été assez peu abordé. On a vu le cas Poutine vraiment expédié, non?
Oui, le cas Poutine vite fait, alors que bon, quand même, il y avait des choses à dire, vu que Poutine a quand même fait un éloge incroyable de François Fillon à la télévision russe. J'ai jamais vu Poutine faire un tel éloge de qui que ce soit, vraiment, en disant que c'était un homme remarquable, extraordinaire. Bon, donc... Lui, bon, Fillon a essayé de s'en démarquer un peu, mais il y a aussi des énormes questions. On parlait tout à l'heure de l'Europe. On voyait pendant le journal que la Turquie fait encore des siennes. La Turquie, avec qui l'Europe a décidé de geler hier les négociations et qui aujourd'hui menace de renvoyer les migrants. Il y a la question de l'OTAN. Il y a la question, qu'est-ce que vous allez faire face à Trump? Qu'est-ce que vous allez faire face au Brexit?
Il y en a beaucoup, en effet, étrangers. Et c'est ça qui paraît étonnant, effectivement, au cheval. Il y a eu, en effet, des questions qui paraissent toujours essentielles, où on nous dit c'est très important, il faut vraiment en parler. Puis, alors là, face à deux candidats pour la présidentielle, rien.
Bon, on s'attend à ce qu'il y ait un débat d'entre deux tours entre les vrais candidats à la présidentielle. Mmh. On va parler de ces sujets-là. Et toute la primaire de la droite a été concentrée sur les questions économiques et sociales. Moi, je pense que c'est une partie du succès de cette primaire à la télévision, c'est que précisément ces questions-là sont celles qui intéressent l'électorat en ce moment. C'est de la question économique.
Contrairement,
et c'est pas un mauvais choix dans l'absolu.
Contrairement à ce que Sarkozy avait pensé sur l'identité.
Contrairement à ce que Sarkozy avait pensé, c'est pas encore le temps de l'identité. Ça viendra dans la présidentielle face à Marine Le Pen, où ce sera même déterminant. Cela dit, Fillon, il y a tellement de François. François Fillon a quand même joué sur la fibre identitaire, mais il l'a fait un petit peu en se cachant, un petit peu discrètement. Mais il le fait quand même. Il a souvent des allusions à l'identité française, notamment on parlait de l'éducation tout à l'heure. Il sait qu'il a ce socle-là, il l'agite un tout petit peu, mais pas trop. Voilà. Mais, pas encore le moment.
Pierre Cogliès, vous le disiez tout à l'heure, hein, d'ailleurs, il y a des questions alors techniques, mais c'est vrai que par exemple sur Vladimir Poutine, ça paraît finalement très loin, la Russie, mais c'est quand même essentiel aujourd'hui d'en parler, parce que jusqu'à présent, celle qui en parler tout le temps, c'est Marine Le Pen.
Oui. Ça m'a moins choqué, la déclaration de Poutine, qui a eu des liens politiques avec Fillon quand ils étaient Premier ministre ensemble. Ce qui est drôle, c'est que Poutine était Premier ministre, il est nouveau président.
C'est vrai.
Ça m'a moins choqué que la déclaration de François Hollande en pleine campagne électorale aux États-Unis, en disant bien entendu la France est pour Clinton, et si c'est Trump, ça risque de mal se passer parce que c'est quelqu'un de pas stable.
Et Hollande a du mal avec les pronostics électoraux
d'accord,
en ce moment.
Sauf que c'est la République française et c'est les États-Unis, c'est quand même un partenaire important. La moindre des choses, d'abord, c'est peut-être garder sa réserve dans la République et au moins qu'il trouve le gagnant. Mmh. Alors, se planter et avoir maintenant le président de la République à dos, c'était pas très malin. C'est beaucoup plus grave que l'appréciation que peut avoir Poutine sur le candidat de la droite.
Mmh. Ça vous a étonné ou pas? Justement, vous le disiez au départ, les journalistes, mais c'est vrai, comme disait Philippe Moreau-Chevrolet, davantage axé, on l'a vu, deux technos quand même, Juppé, Fillon, parler d'économie davantage.
Poutine est isolé, vilipendé, montré du doigt par la France, par la politique de Valls, par Laurent Fabius. Grosse erreur, on le sait aujourd'hui, on constate qu'il faut rééquilibrer les enjeux, qu'il faut reprendre contact avec les Russes par rapport à la Syrie. Il sait que Fillon est lucide sur ce côté-là, et bien entendu, il dit tout simplement, avec Fillon à l'Elysée, la Russie pourra retrouver un rôle de partenaire européen. N'oublions pas que c'est une vieille litanie. Napoléon disait déjà, l'avenir, ça sera les États-Unis, et mais pour nous, l'Europe, la Russie. Et De Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural. Donc, notre partenaire légitime, même si on est très proche culturellement des États-Unis, on ne peut pas faire sans la grande Russie très puissante, et Fillon a dit, en plus, s'ils sont dangereux, ils peuvent être méchants. Donc, il faut aujourd'hui faire en sorte que Monsieur Poutine, au lieu de se le foutre à dos et de l'envoyer sur les Asiatiques, on puisse renouer un dialogue assez constructif avec lui.
Oui, c'est ce discours, il aurait pu être dans la presse russe, hein, le prenait pas mal, mais c'est l'histoire.
Mais j'ai pas honte.
Non, il n'y a pas de problème. C'est l'espoir, clairement, de la presse russe. En plus, qu'avec Trump aux États-Unis, avec un Fillon en France, il y a un peu ce mouvement pro-russe qui s'installe mondialement, qui fasse un effet domino en Europe. Il y a bientôt une présidentielle en Autriche, il y a aussi le référendum en Italie.
En Italie, oui.
Voilà, il y a tout un mouvement qui peut finalement complètement redistribuer les cartes, et notamment sur la question syrienne, et puis la question de Daesh qui nous est pour le coup directement liés. Et ça, ce serait bien aussi de l'expliquer aux spectateurs quand on parle d'international.
On l'a encore vu d'ailleurs aujourd'hui. Oui. Philippine Lanier, il y a d'autres sujets. En effet, il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui n'ont pas été abordés. Et notamment, il y en a un, alors qui est très compliqué. Il faut très compliqué d'en parler, c'est l'environnement. L'environnement, on a vraiment l'impression que, alors là, c'est le tabou ultime à droite. On ne peut plus, alors qu'en 2007, Nicolas Sarkozy faisait une grenade de l'environnement. Là, on a l'impression que c'est maintenant l'épandage, hein, on peut dire ça, sur l'environnement.
Tout à fait. Depuis 2007, d'ailleurs, l'environnement n'a jamais retrouvé cette place dans le débat public. Il y a eu la crise économique, évidemment, qui est passée par là et qui a recentré les priorités des uns et des autres. Mais pour autant, l'environnement devrait être au cœur des débats dans le cadre d'une campagne présidentielle. Donc c'est un petit peu décevant, d'autant qu'Alain Juppé est quand même quelqu'un qui a une vraie conviction environnementale, qui a été ministre de l'écologie, qui a réussi quand même à rassembler autour de lui galaxie des écologistes de la droite et du centre. Il y a quand même qui l'a rejoint. Il y a Yann Verling, ancien secrétaire national des Verts, qui est maintenant au MoDem. Il y a Chantal Jouadeau aussi, qui est la figure écologiste de l'UDI.
On voit que c'est pas les gros poids quand même. C'est vrai, c'est pas des poids énormes. Yann Verling, Chantal Jouadeau, c'est pas des poids énormes.
C'est pas des poids énormes, je sais pas. En tout cas, c'est des figures écologistes centristes. C'est celles qui représentent davantage l'écologie au centre. Et puis il y a NKM qui a un socle du premier tour.
Exactement. Allez, à la suite des informés de France Info, on va aller toujours à droite, mais plutôt à l'extrême droite. Et on parlera également un peu de pessimisme. Et oui, dans la joie. Hein, voilà la suite des informés de France Info.
Mercedes-Benz.
Et au fait, Cyril, pour ta prochaine voiture de fonction, tu as choisi ?
Oui, je vais sûrement prendre une...
Pardon, je vous interromps. Mais sinon, je sens que vous allez regretter d'avoir choisi une simple voiture de fonction quand vous auriez pu rouler en Mercedes. Vous savez, Cyril, la gamme Mercedes-Benz est beaucoup plus accessible qu'on ne le croit. La Mercedes Classe A, par exemple, est à partir de 23 950 euros. Cela étant dit, je vous laisse terminer.
Une Mercedes.
Ah, on se sent tout de suite mieux.
Prix conseillé pour une Classe A, 160 BM, 6 intuition.
Je donne pour combattre
la Fondation
le cancer.
De France. Je donne pour lutter la contre la solitude de des personnes âgées.
Je donne pour les sans-abri.
De France.
Je donne pour l'insertion des personnes handicapées.
Je donne pour aider les enfants en échec scolaire.
Il y a plus d'une cause qui mérite votre générosité. À la Fondation de France, nous sélectionnons les meilleurs projets dans chaque domaine pour vous permettre de soutenir toutes les causes qui vous tiennent à cœur. Découvrez toutes nos actions sur fondationdefrance.org. Fondation de France, la fondation de toutes les causes.
France Info Météo avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Nuages au nord et soleil au sud ce week-end. Demain, entre le sud-ouest, Rhône-Alpes et la Corse, les éclaircies s'installeront après la dissipation des grisailles matinales. Attention aux avalanches dans les Alpes. Seuls le Languedoc-Roussillon et le Var garderont un ciel encombré avec quelques averses. Le vent d'automne sera sensible. En allant vers le nord, on retrouvera une ambiance grise, parfois brumeuse et humide le matin. De petits rayons de soleil tenteront leur chance l'après-midi sans beaucoup de succès. On aura souvent 1 à 8 degrés le matin, jusqu'à 10 sur la côte d'Azur. L'après-midi, 7 degrés à Lille, 10 à Strasbourg, 11 à Paris et Lyon, 12 à Nantes, 14 degrés à Toulouse, 17 à Marseille. On ira jusqu'à 19 en Corse. Dimanche, ce sera encore gris au nord et ensoleillé au sud.
20h30 sur France Info.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. L'enquête sur le nouvel attentat déjoué à Paris. Les cinq hommes arrêtés à Marseille et Strasbourg le week-end dernier étaient téléguidés depuis la zone Irak-Syrie, selon le procureur François Molins. Des écrits d'allégeance à Daesh ont été saisis chez eux, ainsi que des instructions pour se procurer des armes reçues via une application cryptée. Le procureur de Paris qui confirme qu'une action était envisagée jeudi prochain, le 1er décembre, dans la capitale ou en banlieue. Dans l'Hérault, après près d'une journée de chasse à l'homme, le suspect soupçonné d'avoir tué hier soir une employée d'une maison de retraite de Montferrier-sur-Lèze, près de Montpellier, donc, a été interpellé. Vers 18h, les gendarmes l'ont arrêté. C'est un père de famille de 47 ans. Il a été appréhendé dans la commune où il réside, à un peu plus d'une dizaine de kilomètres du lieu du meurtre d'hier soir. Le récit pour France Info de Salam Daoui de France Bleu Hérault.
Le suspect a été arrêté dans la rue près de chez lui à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Il était seul et n'a opposé aucune résistance, selon les gendarmes. C'est un homme de 47 ans. Il habite à un peu plus de 10 kilomètres de là où se trouve la maison de retraite. Dans son quartier ont eu lieu les premières perquisitions quelques heures après le crime, vers 1h du matin. Sa compagne avait alors été emmenée pour être interrogée. Ancien militaire, il est père de 2 enfants, au chômage, actuellement assez discret. Selon un de ses voisins, cet homme a travaillé au chêne vert, tout comme la victime. Catherine, 54 ans, retrouvée morte dans la lingerie, tuée de plusieurs coups de couteau par un homme cagoulé. Elle aussi était mère de deux enfants. C'est une de ses collègues qui a donné l'alerte, une aide-soignante ligotée par l'agresseur mais qui a réussi à se défaire de ses liens. Salam Daoui, France Bleu, Héros pour France Info.
Un CRS condamné aux assises des Yvelines à Versailles à 11 ans de réclusion criminelle. Le fonctionnaire avait réclamé des faveurs sexuelles à 10 femmes en échange de l'annulation de leur PV. Il avait aussi violé ou agressé sexuellement certaines d'entre elles. Aujourd'hui révoqué de la police, il est en outre condamné à un suivi socio-judiciaire de 5 ans, une injonction de soins. Nouveau rebondissement dans le feuilleton judiciaire autour de l'attribution du Grand Stade de Lille, avec aujourd'hui annoncé la mise en examen de la métropole de Lille. Décision remonte au 15 novembre dernier. La collectivité est poursuivie pour favoritisme. Le retour des informés sur France Info.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, tu vas un petit peu ça, vous savez, Philippe Moreau Chevrolet, voilà, vous informez de France Info. Allez, jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, également sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés sur le canal 27 de la TNT. Donc ils sont bien installés, d'ailleurs ils discutent, ils sont presque chez eux, autour de la table des informés de France Info. Ils sont prêts à dégainer sur l'actualité ce soir. Donc nous trouvons Madame Mostafa Hadid, courrier international. On l'a déjà un peu entendu, Philippe Moreau Chevrolet, communicant de son état, Perico Legas de Marianne et Philippine Lagnès, conseillère régionale d'Île-de-France, Modem. Surtout ne pas désespérer, il y a des choses qui marchent bien en France. Et oui, on a souvent tendance à dire que tout s'écroule. Eh bien, il y en a un, par exemple, au niveau du pessimisme, la France est en pleine forme. Voilà, il faut le dire, hein, une étude confirme le malaise des Français quant à l'avenir. Aujourd'hui, on râle gratis, hein, Friday, c'est un peu le Black Friday de la déprime. On voit ça à 20h45, car avant, donc, on va continuer à parler de la droite, ou plutôt d'extrême droite. En effet, alors que l'on attend la décision de François Hollande sur son avenir présidentiel, y aller ou ne pas renoncer à y aller, voilà la question qui taraude en ce moment François Hollande. Hein. Le Front National est dans les starting blocks. Une chose étonnante, c'est la nouvelle offre marketing du FN. Le nom, bon, on en a déjà parlé aux informés. Le nom de Le Pen est effacé. La rose bleue remplace la flamme tricolore. Ça, on était au courant. Mais ce qui est étonnant, ce sont les codes de pop culture détournés par le Front. Hein. Au nouveau QG de campagne du FN, on aperçoit la langue des Rolling Stones avec la fleur bleue dessus. On aperçoit également une œuvre de artiste de rue Banksy, pourtant pro-migrant. Et même Florian Philippot, et oui, déguisé en James Bond. Alors, c'est pas vraiment Sean Connery. Hein. Donc, bientôt des banques, des chillums et un coffee shop. Hein. Le FN veut se la jouer cool. Alors, Philippe Moreau sur le relais, on voit bien quand même une stratégie là de dédiabolisation, mais au maximum de sa possibilité, non ?
Le Front National a réussi à capter une bonne partie de la pop culture française. Il y a ce qu'on appelle la fachosphère, il y a ce qu'on appelle le complotisme, qui sont des mouvements souterrains mais profonds. On estime que dans les 18-25 ans, il y en a plus de 50% qui croient aux théories du complot. Tout ça fait partie d'une nouvelle pop culture que les partis traditionnels n'ont pas du tout su capter et interpréter. Elle a compris une chose, c'est qu'on peut prendre n'importe quel symbole, le détourner à son profit pour en faire quelque chose d'autre. Donc la rose, elle le fait, elle capte le symbole du Parti Socialiste, Banksy, elle va récupérer des artistes contemporains, elle va récupérer des symboles de la pop culture comme James Bond, parce que c'est juste payant, et que dans les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut le faire et que ça n'est plus jugé.
Ce qui est étonnant, Philippe, c'est quand même, même pour les militants ou les proches du Front National, Banksy, alors il n'est pas très connu dans le nom, mais ses œuvres sont connues dans le monde entier, il est pro-migrant, il a
mais
vraiment
c'est peu importe,
fait...
Voilà. Peu importe, le symbole est connu, le symbole est reproduit partout et on peut se l'approprier. Ça n'est plus jugé. Avant, c'était considéré comme quelque chose de choquant de se réapproprier ces symboles de la pop culture. Aujourd'hui, ça fait partie de la pop culture de détourner les symboles de la pop culture. C'est même devenu un art en soi. Ouais. Donc c'est juste que le Front National a compris beaucoup mieux que les autres que pour faire de la bonne communication, je suis désolé de le dire, parce qu'évidemment, je suis pas Front National, il fallait savoir récupérer les symboles en permanence. Mmh. Et le Front National est une usine à symboles. Et ouais. En face, on a par exemple François Hollande qui ne sait pas, qui est en panne de symbolique. Elle est en train de gagner sur ça. Voilà.
Philippine Lagnès, quand vous voyez ça, justement, c'est la pop culture associée, Front National et pop culture, je ne pensais pas un jour même prononcer cette phrase. Un jour. Allez, ça paraît étonnant quand on voit par exemple les Rolling Stones, la langue des Rolling Stones au QG du FN.
Ah oui, c'est hyper étonnant. Et encore plus ce que vous disiez, Banksy, sur la société des migrants. Je trouve que les gens vont voir quand même la grossière stratégie de communication
derrière.
Parce que
quand on voit par exemple Louis Alliot, compagnon de Marine Le Pen, avait fait une affiche avec Jean Jaurès.
Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que je pensais à ça.
L'accord de Jean Jaurès, hein, c'est bien sûr. C'est ça.
Ou alors, et c'était même une affiche qui disait Jean Jaurès aurait voté Front National. Voilà. Enfin, ça allait très très loin. Voilà. Ou Florent Philippot qui prétend que De Gaulle est sa référence absolue. Mmh. Donc, ils s'approprient comme ça les symboles qui leur seraient pas du tout associés. Bon, je pense que les gens sont capables de voir aussi ce qu'il y a derrière. Je pense que là, sur la question de Banksy, enfin, c'est surréaliste d'avoir une œuvre de Banksy au siège du Front National. C'est quelqu'un qui allait très loin dans ses positions pro-migrants. Et je sais pas s'il le sait aujourd'hui, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense. Ouais. Et sur la question de la rose bleue aussi, enfin bon, ça me fait halluciner. On est sur quand même le registre de socialiste de la rose bleue. C'est quoi? C'est l'UMPS dans toute sa splendeur. Enfin, c'est quand même assez étonnant. Et sur la symbolique, il y a un truc qu'ils ont un petit peu raté, c'est que quand même leur siège, il est rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc la rue la plus chic de Paris.
Mais aussi à quelques mètres de l'Élysée. Oui.
Ouais,
vous voyez
d'accord.
La symbolique.
Ok, mais bon, sur l'antisystème, parce que je crois qu'ils sont sur ce registre-là, c'est un peu mauvais.
Pierre Colligas.
Ça fait tellement longtemps qu'on leur a abandonné tellement de symboles. La patrie, la République, la nation, le drapeau, la Marseillaise, après tout, ils s'engouffrent. Au nom du peuple, en fait, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Et c'est Jean-Marie Le Pen qui est en train de dire le Front National sera le dernier parti de gauche. Mmh. Voilà. Et en plus, sur quoi ils surfent? Ils ont, dans leur électorat, beaucoup de jeunes, ce qui est vraiment très étonnant. Et de vrais jeunes, hein, pas des... Voilà. Et ben, ils s'engouffrent dans les brèches qui leur ont été ouvertes, ils auraient tort de se priver.
Oui. Mais alors, justement, quand Ségolène Royal, en 2007, se présentait, elle voulait récupérer le drapeau français.
Oui.
Elle avait donc raison.
Vous avez vu ce qu'elle a pris? Et vous avez vu ce que son compagnon lui a envoyé dans la figure quand elle a commencé et comment elle s'est fait passer? Elle s'est fait filloniser, tiens. Elle aussi. Voilà, réac, épouvantable, rétrograde, voilà. Et d'ailleurs, ils l'ont tué. Voilà, donc chaque fois qu'on va sur ce terrain-là, eh ben à ce moment-là, le Front National dit « Moi, je le prends », et c'est ce qui permet au Front National aujourd'hui d'avoir une légitimité, c'est de reprendre les symboles nationaux, les symboles institutionnels, et de dire « C'est nous qui sommes les porteurs des valeurs de la République ».
Ségolène Royal avait fait une campagne très remarquable en 2007, elle a été tuée par son propre camp, par des gens comme Fabius qui ont dit « Qui c'est qui va garder les enfants ?» Voilà. Ils l'ont tuée. Mais la réalité, c'est qu'elle a le sens du peuple, elle comprend comment parler aux gens et comment s'approprier justement cette pop culture. C'est la seule du gouvernement qui demeure populaire où qu'elle aille, pratiquement. Mmh. Non, c'est vrai.
Avec un peu d'incantation, mais c'est vrai.
Je ne suis pas ségoléniste, mais il faut reconnaître ça. Elle a le sens du peuple.
Bien sûr. Alors, Mme Safavi, c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que les Rolling Stones, je ne sais pas ce qui se passe avec ce qu'on dit souvent les populistes, puisqu'ils ont eu des problèmes avec Donald Trump aussi, puisqu'ils terminaient tous ces meetings avec une chanson. Des Rolling Stones, ce n'est pas donc la seule, finalement, à détourner.
Non, ce n'est pas la seule, et ce n'est pas la seule dans le monde. En effet, Trump a aussi repris des artistes contre leur gré, entre guillemets. Après, il y a des partis comme Podemos, par exemple, en Espagne.
Donc plus à gauche, là.
Plus à gauche, c'est complètement différent, mais qui, eux aussi, essayaient de se démarquer d'une histoire chargée du communisme, de l'extrême-gauche, qui essayait d'être une gauche plus pop, plus fun, et qui... on avait, par exemple, le leader de Podemos, Pablo Iglesias, qui a écrit un livre sur Game of Thrones,
d'accord,
en s'identifiant à la Khaleesi, la reine des dragons, et en expliquant que, voilà, lui, il allait conquérir le pouvoir comme elle le faisait, envers
il
et contre tout.
Il est un peu moins sexy, quand même.
Il est un peu moins sexy, mais il a les cheveux longs, aussi.
Il a les cheveux longs,
Mais voilà, finalement, il y a une vraie recherche des politiques par rapport à la pop culture. En fait.
Ça existe, oui, ça existe un peu partout dans le monde. Et après, il y a aussi les résistants qui eux-mêmes, des gens qui ne sont pas dans des partis, qui essayent d'utiliser ces symboles comme en Thaïlande.
Le service d'information du gouvernement a beaucoup utilisé les symboles de la pop culture pour faire de la pédagogie très utile. Donc ça peut aussi être pour le bien.
On va y venir dans un instant. L'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
Et on ne sait évidemment pas combien de temps va durer la délibération. Les jurés de la cour d'assises du Puy-de-Dôme se sont retirés en milieu d'après-midi avec une question à laquelle ils vont devoir répondre. Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf sont-ils coupables d'avoir tué la petite Fiona? Avant que le jury ne se retire, Berkane Maclouf a demandé pardon à tous ceux à qui le couple a fait du mal. En fin de matinée, l'avocat général avait requis la peine maximale, 30 ans de réclusion à l'encontre de la mère et du beau-père de la petite de 5 ans. France Info vous le révélait en tout début de soirée, arrestation de l'homme soupçonné d'avoir tué à l'arme blanche une aide-soignante hier soir dans une maison de retraite de l'Hérault. Il s'agit d'un ancien employé de l'établissement âgé de 47 ans. Il n'a opposé aucune résistance quand les gendarmes sont venus l'arrêter. Si vous prenez l'autoroute régulièrement, cette information est pour vous. Les tarifs des péages vont augmenter à partir du 1er février 2017, plus 0,76%. Au 1er février 2016, les péages avaient déjà augmenté d'1,12%. 44 morts et une centaine de blessés dans une collision entre deux trains de voyageurs en Iran, dans l'est du pays. La presse locale donne un tout dernier bilan ce soir. Et puis alors que les stations de ski commencent à ouvrir ce week-end, sachez que la Haute-Maurienne en Savoie est inaccessible en raison des intempéries. C'est une information de France Bleu Pays de Savoie. De violentes et abondantes pluies ont fait déborder plusieurs torrents affluents de l'Arc. Plusieurs éboulements et coulées de boue. La départementale 1006 est coupée.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de politique, nous parlons de symboles et notamment ceux récupérés par le Front National. Perico Legas, j'avais moi une question à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui en politique française, quand on voit des offres qui se disent plus modernes les unes que les autres, il y a plus trop ces fameux symboles comme auxquels on était attaché auparavant en politique, c'est-à-dire du Parti communiste, la faucille marteau, la flamme, un bonnet phrygien pour le RPR. Est-ce que finalement c'est encore important? Les symboles, pour vous.
Oui, en plus, ils ont été remplacés par des symboles mercantiles, souvent de culture américaine. Là aussi, il y a une refrancisation de... Voilà, les musiques pop, c'est la musique américaine. Sûr, et en plus, c'est la musique, c'est quand même le grand capitalisme américain.
Britannique,
c'est une sorte de cheveux britannique. Enfin bon, c'est anglo-saxon. C'est le monde anglo-saxon. Oui, bien sûr, et petit à petit, on va revoir... une réappropriation de ces symboles historiques. Je pense que ça se fera beaucoup pendant la vraie campagne électorale et que ces thèmes-là reviendront à l'ordre du jour, oui. C'est clair. Et dans le débat historique, justement, c'est de dire que nous avons un patrimoine de symboles qui ne sont ni de droite ni de gauche, qui sont français et qui méritent d'être remis au jour.
Alors, Philippe Lagnès, vous-même, au MoDem, c'est un parti jeune qui a été créé après 2007. Il n'y a pas véritablement de symbole. On parle orange, la couleur orange. Est-ce que pour vous, si vous êtes jeune élu, est-ce que c'est important, justement, ces symboles, des symboles qu'un parti et des symboles graphiques se réfèrent encore à des marques, presque, qui puissent identifier?
Oui, probablement, d'un point de vue de communication, je pense que c'est effectivement important. Après, moi, en tant qu'élu, je préfère qu'on soit identifié par des marqueurs idéologiques que par des symboles.
Et certains disent qu'il n'y a plus, justement. Et certains disent qu'il n'y a plus d'idéologie, justement, dans les partis.
Il n'y a plus d'idéologie, il y a quand même des marqueurs, évidemment. Ouais. Entre la droite, le gauche, le centre, on est quand même sur des registres qui sont différents. Nous, on prend des choses comme la moralisation de la vie publique, comme un projet social qui ne soit pas socialiste, comme...
C'est ça. Non, mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on voit Philippe Chevrolet. Voilà, c'est pour ça cette question. Je me disais sur les symboles. Aujourd'hui, on voit tout est dématérialisé. Quelqu'un comme Emmanuel Macron qui se lance n'a pas véritablement un symbole comme avant, finalement.
Non, il n'a pas non plus d'idéologie marquée. D'ailleurs, les électeurs ont du mal à le classer. Donc la majorité considère qu'il est centriste à 60%. C'est une mauvaise nouvelle pour vous dans l'absolu. Ouais. Et les autres le placent à 50% à droite, à 50% à gauche. Donc c'est un vrai authentique centriste. Il n'y a pas d'idéologie chez lui. Il n'y a pas vraiment de fond. Il y a une sympathie. Il est jeune, par ailleurs. C'est le plus jeune des candidats.
C'est terrible ce que vous dites. C'est-à-dire que quand on propose rien, on est centriste. Il fait de l'incantation.
Non, c'est que les gens.
Il n'y a pas de programme.
Mais les gens estiment qu'il est centriste justement parce qu'il propose rien.
Voilà.
Oui, c'est pas une critique des centristes. C'est une appréciation de l'électorat.
C'est ça, Philippine Agnès. Quand on propose rien, on est centriste.
Non, évidemment pas. Emmanuel Macron a été classé comme ça parce que dans un gouvernement de gauche, c'est lui qui prenait les idées les plus à droite. Alors on estime que quand on est à la droite de la gauche ou à la gauche de la droite, on est centriste. Je pense que c'est plutôt sur ce registre-là qu'il a été classé centriste.
Mitterrand disait, le centre est à droite. Il disait, il n'est ni de gauche, ni de gauche,
ni de gauche. Voilà,
c'est ça. Alors, Amna Mostafavi, c'est vrai que là, on parlait du Front National. On l'a dit souvent cette semaine. Il y a même des sondages qui sont sortis. François Fillon serait donc le meilleur pour battre Marine Le Pen. Vous pensez aujourd'hui, vous, par exemple, quand vous regardez la politique française, depuis le début, il y a une chose qui semble rentrer dans nos têtes et qui est à la fois terrible, c'est que Marine Le Pen est systématiquement au second tour.
Oui, c'est-à-dire
est-ce que finalement, c'est quelque chose inscrit dans le marbre?
Bah évidemment, non, c'est ce que un peu l'enseignement de toutes ces élections, c'est que non, rien n'est inscrit dans le marbre, et même Marine Le Pen peut ne pas se retrouver au second tour. Et la question, c'est est-ce que Fillon est finalement le meilleur candidat pour la battre ou le pire candidat pour elle? Parce que ou au contraire, est-ce qu'elle va capitaliser sur le fait que Fillon soit très à droite pour elle se positionner beaucoup plus à gauche? Et là, dans ces cas-là, tout est ouvert. A priori, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour elle, puisqu'il est sur les mêmes valeurs, sur les mêmes questions. Mais en effet, elle, comme elle est en pleine rebrandisation, on vient d'en parler, ouais, en plein remarketing, elle peut aussi en jouer et attaquer là où on ne pensait pas.
Perico Legas.
N'oublions pas qu'en 2007, Sarkozy avait pompé 10 points au Front National, alors sur des critères identitaires et sécuritaires. Là, c'est un danger pour le Front National, parce que Fillon, le traditionnel catholique, peut lui pomper, j'allais dire plutôt l'électorat de Marion Maréchal. C'est-à-dire les valeurs chrétiennes, la famille, voilà, et un peu la patrie. Donc là aussi, danger. Je pense que c'est le pire. Je pense qu'elle vaut de Juppé.
Oui, bien sûr. Est-ce que pour vous, c'est-à-dire que Marine Le Pen est forcément au second tour? Aujourd'hui, quand on voit l'ambiance du pays, quand on voit...
Pour l'instant, elle y est, et rien ne peut laisser croire qu'elle n'y sera pas, mais il peut se passer avec la primaire de la gauche, Si on a un Fillon face à Montebourg, on a de vrais enjeux concrets, très précis par rapport à des projets de société. Et là, il faudra qu'elle se définisse de façon très précise parce que les deux lui piquent du terrain. Et là, il se pourrait qu'elle ne soit que troisième. Si un Fillon déterminé avec une campagne de droite très claire, avec un projet très clair, et un Montebourg qui pourrait être un peu le Fillon de la gauche, eh bien là, je pense qu'il peut y avoir au mois d'avril une redistribution des cartes.
Finalement, Philippe Manchevrier, est-ce qu'il avait raison, Nicolas Sarkozy, avec toujours cette technique de dire je vais sur l'identité, je parle que du burkini, je parle de frites à la place du jambon, pour essayer d'aller sur les passes de Marine Le Pen où c'était totalement mort.
Non, il était dans sa logique, qui était celle de 2012. Il était sur une logique de lui, il pensait que l'électorat de droite allait se prononcer sur ces enjeux-là. Il pensait que lui-même était le meilleur champion pour les représenter. Ça s'est pas fait comme ça. L'électorat de droite est allé sur des enjeux économiques et a préféré quelqu'un de plus crédible que Sarkozy. Il y avait un anti-sarkozisme fort qu'il a pas estimé à sa juste valeur. Sur la campagne de 2017, il y a un problème qui est que François Fillon n'est pas charismatique. Voilà. Mais il peut piquer des voix à Marine Le Pen sur sa droite, effectivement, sur la droite Cato, sur plein de choses.
Vous pensez qu'il va aller, par exemple, certains disent au contraire, il faudrait qu'il se radoucisse aujourd'hui parce que ses mesures économiques sont dures.
Non,
vous pensez qu'au contraire, il va aller sur l'identité,
aller sur l'identité, c'est son penchant naturel, c'est son intérêt. Maintenant, il va y aller dans ses propres termes, qui ne seront pas ceux de Nicolas Sarkozy. Ça passera pas par nos ancêtres les Gaulois. Ça passera par quelque chose de plus subtil. Le problème, c'est que c'est pas quelqu'un de populaire. C'est un candidat élitiste qui a été élu par 4 millions de personnes. Qui ne sont pas représentatives de l'électorat français. Ce sont 4 millions de gens plus riches, plus vieilles et plus vieux et plus conservatrices que la moyenne, mais qui ne sont pas forcément représentatifs de l'électorat. C'est là où Perico Legas a raison. Marine Le Pen peut très bien aller sur la gauche, surtout si le Parti Socialiste décide de se suicider en reconduisant François Hollande. Là, il y a un boulevard pour elle.
C'est ça. Philippine Lagnès, pour vous, aujourd'hui, Marine Le Pen, sur sa campagne, sur ce qu'elle a fait jusqu'à présent, est-ce que c'est elle toujours qui guide les débats, parce qu'on a l'impression que tout le monde ne passe son temps qu'à se positionner par rapport à elle, encore?
Elle a été extrêmement maligne, elle a été assez discrète ces derniers mois, mais on sait très bien que ce n'est que pour mieux réapparaître ensuite. Elle avait tout intérêt aussi à ce que Sarkozy occupe le terrain identitaire pendant cette primaire de la droite, parce qu'avoir Sarkozy au second tour contre elle, ça aurait été du pain béni. Bon, on voit que c'était pas possible, elle a fait ce qu'elle pouvait, mais ça l'a pas fait. Après, moi, j'ai du mal à croire qu'elle puisse pas être au second tour en 2017. Évidemment, c'est absolument pas ce que j'espère, mais je pense qu'on part quand même dans cette direction-là.
Si Béraud est candidat, il va passer devant, il va tout rafler.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà, très bien, vous êtes très enthousiaste. En tout cas, comme vous le dites, Perico Legas, pour vous, justement...
N'oublions pas qu'en 2011, François Hollande part avec près de 63% d'intention de vote, la gauche, il finit à 51 et quelques. On dit toujours, c'est la doctrine Buisson mise en place par Sarkozy au mois de février qui l'a coulé. Non, c'est ce qu'il doit faire monter. Et je me souviens qu'à l'époque, on aurait attendu 3 semaines de plus ou pas, les 51% avec 48,5, c'était pas gagné.
C'est souvent ce qu'il a dit quand même. On l'a vu continuer la même campagne et ça l'a fait perdre finalement.
Donc c'est ce que je dis, Philippe. Il a dit, j'ai pas fini 2012, je vais finir mon travail de 2012. Il avait oublié que Petit Fillon allait aussi un petit peu sur ce terrain de façon beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, beaucoup plus rassurante.
Il faut être crédible. Et Sarkozy n'a pas changé. Sarkozy, il est toujours l'homme de Carla, l'homme riche, etc. Ce personnage-là.
Je vous donne une bonne nouvelle. Hein, il est pas parti du tout. J'en ai aucune information. Je peux vous dire qu'on va le retrouver très vite en pleine forme.
Ça, c'est l'espoir de Marianne. C'est l'espoir de Marianne pour des raisons bassement mercantiles.
Vous en avez une part, quand même, vous comprenez.
Bien sûr.
Non, mais je connais le bonhomme. Il va pas nous lâcher tout de suite.
Perico Legas, voilà. Allez, l'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
Il est reconnu coupable d'avoir réclamé des faveurs sexuelles à 10 femmes en échange de l'annulation de leur PV, mais pas seulement. Le policier a violé ou agressé sexuellement certaines d'entre elles. Un CRS condamné ce soir à 11 ans de prison par la cour d'assises de Versailles. À 37 ans, l'homme était déjà révoqué de la police. Chasse à l'homme terminée ce soir dans l'Hérault. L'homme soupçonné d'avoir tué une aide-soignante dans une maison de retraite hier soir à Montferrier près de Montpellier a été arrêté sans opposer de résistance. Information que nous confirme France Bleu Hérault. Peu avant 22h hier soir, un suspect en cagoulé a fait irruption dans l'établissement et tué l'employé à l'arme blanche. Il a 47 ans et avait travaillé dans la maison de retraite. Une centaine de gendarmes étaient mobilisés depuis ce matin pour le retrouver. Une attaque de grande envergure a été évitée. François Hollande félicite les services de renseignement, les policiers et les magistrats qui ont permis le démantèlement d'un réseau terroriste le week-end dernier. Le chef de l'État assistait cet après-midi à une cérémonie célébrant la sortie d'école de quelques 850 gardiens de la paix. Le président s'est recueilli quelques heures plus tôt sur la tombe d'une des victimes de Mohamed Merah, un militaire originaire du Gard. Et puis le ton monte sérieusement à Ankara après sa menace de laisser passer les migrants vers l'Europe si Bruxelles suspend les négociations avec la Turquie. Le président Recep Tayyip Erdogan agite de nouveau la menace de la peine de mort. Il affirme ce soir qu'il promulguerait la peine capitale si le Parlement la votait. Qu'importe les avertissements de l'Union européenne.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Hamda Mostafavi de Courrier International, le communicant Philippe Moreau-Chevrollet, également Perico Legas de Marianne. On l'a vu en effet qui espérait Nicolas Sarkozy. Il faut remonter.
Non, j'ai dit qu'il n'était pas parti.
Perico Legas et Philippine Lagnès, conseillère régionale d'Île-de-France. Modem. Allez, on a un tout petit peu de temps pour terminer sur une étude qui revient chaque année, qui chaque année redit la même chose. Les Français n'ont pas la pêche hein, et pas du tout la super pêche. Là, c'est une étude menée par l'Institut Ipsos Mori qui le montre une nouvelle fois sur 25 pays passés au crible. Nous figurons avant-dernier, juste devant le Mexique hein, qui ferme la marche des contrées les plus déprimées. À la question « Pensez-vous que votre pays va dans la bonne ou mauvaise direction ?» Les Français ont répondu à 89% de manière négative. Économie, emploi, avenir, bien-être. Étrange que la France ressemble encore à un hexagone alors qu'elle prend de plus en plus l'allure d'un cachet de Xanax. Hein. Au vu de cette étude, on se dit qu'effectivement, que physiquement, voilà, François Fillon eh bien, accroche avec le pays. On peut vraiment le dire. Le mois dernier, une étude de France Stratégie disait à peu près la même chose. Il y aurait quelques explications à cette ambiance paglope. Fabrice Langlard, commissaire général adjoint à France Stratégie.
L'entreprise, les institutions publiques, les services publics, l'école, la démocratie, ces institutions, en fait, fonctionnent mal. Et c'est le fait qu'elles ne remplissent plus leurs promesses qui induit un excès de pessimisme.
Voilà, donc ça viendrait de là, donc Fabrice Langlas, commissaire général adjoint à France Stratégie. Pourquoi ce sentiment persistant, Philippe Moreau-Chevrollet ? C'est vrai que chaque année, on nous le dit, les Français sont totalement pessimistes.
C'est culturel, d'abord, c'est qu'on a toujours été comme ça.
D'accord.
Et ensuite, il y a une conjoncture économique qui est vraiment... on parle dans la thématique française, intellectuelle française, on est très à droite, dans le sens du déclinisme, dans le sens du déclassement. Tous les nouveaux intellectuels qui débarquent sur la scène médiatique, Bastier ou Zemmour qui est plus ancien, sont sur cette thématique du déclin. Il y a juste une dynamique du déclin en France, c'est terrible, intellectuel, et ça crée le climat culturel, est un climat culturel favorable à l'extrême droite aussi pour cette raison-là. Mmh. Après, ça s'appuie certainement sur un vécu, ça s'appuie sur un sentiment de déclassement des nouvelles générations par rapport aux anciennes, ça s'appuie sur plein d'éléments réalistes, mais il y a un contexte culturel qui est, qu'on a tous contribué à créer autour de cette table.
Hamda Mostafavi, c'est vrai qu'on voit aussi particulièrement chez les jeunes, alors bon, qui sont très pessimistes par rapport à leur pays, qui se disent de toute façon on vivra moins bien que nos parents. Voilà, alors ça c'est déjà
après,
le,
c'est
la première chose.
Après c'est du constat, mais ouais. Oui, non, mais c'est vrai. Enfin, pour les jeunes en tout cas, on parle beaucoup de voilà, vous aurez pas de retraite, vous aurez pas de travail de toute façon. Donc c'est sûr que c'est pas très enthousiasmant.
On va tous mourir.
Et puis après, c'est vrai que voilà, la seule chose que les jeunes avaient, c'était tranquille, être jeune entre guillemets.
Ouais, c'est
mais
vrai.
Dans un monde c'est hyper sécurisé aussi, maintenant c'est beaucoup plus difficile. Hein. Enfin, on est quand même dans un pays qui vit sous le terrorisme, donc c'est pas cette année que soudain les Français vont cesser d'être pessimistes.
Mais là, vous avez entendu, finalement, c'est pas forcément. Alors bien sûr, il y a cette ambiance anxiogène, sécuritaire, mais là, c'est vraiment ce que disait Philippe Moreau-Chevrollet. Il y a économie, emploi, avenir, bien-être. Vous voyez, ça va au-delà.
Mais après,
finalement,
vu de l'étranger, par exemple, c'est un des traits principaux qui est cité pour dire qu'est-ce qu'un Français. Parce que, non, mais c'est vrai. Les Français sont notoirement râleurs, pessimistes, se plaignent, ils sont déprimés. Enfin, c'est. Je pense que ça fait partie de l'identité française.
Voilà, donc on est en pleine forme finalement. Finalement, Perico Legas, ce débat, comme l'a dit Philippe Moreau-Chevrollet, sur l'identité française depuis quelques années, est-ce que ça commence à un moment à plomber aussi?
Je vais apporter un gros bémol à ce qui a été dit. Par mes activités professionnelles, je suis sur le terrain en permanence, c'est-à-dire les régions, les provinces, ce qu'on appelle le PRL sans connotation. Moi, je vois des gens qui ont une pêche formidable, des artisans, même des paysans en difficulté, des gens qui travaillent, des chefs d'entreprise, qui croient en leur pays, qui se défoncent, qui créent des emplois, qui s'enrichissent. Ils en ont ras-le-bol que l'espoir qu'ils créent tous les jours soit cassé par une classe politique incompétente et des médias qui ne leur disent pas la vérité. C'est ça la déprime.
Qu'est-ce c'est pas qu'ils n'y croient pas. Hein, la vérité, c'est quoi, c'est-à-dire...
Non, des médias qui leur parlent que le débat de demain. Est-ce qu'on peut parler des choses essentielles qui concernent les Français? Je ne dis pas que les médias sont nuls. On se focalise sur des thèmes parisiens et la vie de la France, elle est au-delà du périphérique et au-delà du périphérique, on attend aujourd'hui qu'il se passe quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'ils se tournent vers quelquefois par des candidats inattendus.
Ouais. Philippe Lagnès, sur ce sondage, alors c'est international, on voit la France qui n'est pas très en forme. Est-ce que c'est en effet une caricature des Français, où on voit en effet, et je le prends notamment par rapport aux plus jeunes, François Hollande avait mis la jeunesse au cœur de son projet présidentiel en 2012. Hier, il y a eu des chiffres du chômage où on a vu que ça s'améliorait un petit peu, mais on sent bien quand même qu'il y a quelque chose de lourd. les plus jeunes aujourd'hui.
C'est vrai que la situation dans laquelle on évolue en tant que jeune, là pour le coup je parle également pour moi, bien est sûr. Assez anxiogène. Après, moi j'aimerais bien voir l'historique de ce sondage. Je ne sais pas s'il existe depuis longtemps. Est-ce que les Français sont toujours au dernier rang ou pas? Est-ce que ça dépend du contexte? On n'est jamais du plus dernier passé, ça ne m'étonne pas du tout. Ce serait intéressant de voir, avant la crise économique, à quel rang on était, de voir quelles mesures le contexte joue. Mais effectivement, je pense qu'il y a un trait culturel qui est aussi très prégnant dans ces résultats.
Après, il y a une partie, à mon avis, qui est aussi déclarative. Enfin, je pense qu'on parlait aussi, je parlais de terrorisme et tout, mais les Français ont montré aussi qu'ils étaient très résilients, qu'ils continuaient à vivre, qu'ils faisaient quand même plein de choses. Donc, il y a aussi une partie de notre image qu'on entretient qui est un peu déclarative.
C'est quand même la première destination touristique au monde. Donc, si on était aussi sinistre et triste que ça, on n'aurait pas 90 millions d'étrangers qui viennent faire la fête. Donc, nous restons une grande nation, nous restons un grand pays, et on est râleurs. Ça fait 200 ans qu'on râle parce que nous sommes là pour dénoncer ce qui va mal dans le monde. Nous sommes des lanceurs d'alerte à échelle internationale.
Bravo, Philippe Moreau-Chevrolet.
Anne-Kem avait dit dans la primaire de droite, vous aurez le choix entre la déprime et la nostalgie. Donc, on a plutôt choisi la déprime. Cela dit, il y a un candidat anti-déprime, c'est Macron. Il est très, très positif. C'est le seul.
Allez. Un peu neurasthénique quand même, de temps en temps.
Un tout petit peu.
Allez, les Français, quand même.
Les informés de France Info, ça va se terminer. Merci beaucoup à Philippe Moreau-Chevrolet d'être passé. Merci également à Philippine Lagnès. Un petit coup d'œil à nos partenaires. Amdam Mostafavi, donc la une de Cour internationale, le nouveau désordre mondial, voilà, qui n'est pas très rassurant. Et pour Marianne Péricolégas, vous parlez des populistes.
Oui, les populistes.
Exactement. C'est d'actualité.
Allez, qui gagne, les gagnants.